Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il avoir peur des GAFA chinois ? Qui a dit que l'humour n'avait pas de frontières ? Dolce & Gabbana vient de faire l'expérience du contraire. Pour promouvoir un défilé en Chine, la marque de luxe italienne avait diffusé une vidéo humoristique montrant une jeune chinoise tentant de manger une pizza avec des baguettes. La blague a été d'autant moins appréciée qu'un des membres du duo de créateurs aurait eu des propos méprisants à l'égard de la Chine. Résultat, plusieurs dizaines de millions de commentaires hostiles sur les réseaux sociaux chinois et un défilé annulé. Alors cette histoire n'est pas seulement anecdotique, elle révèle la puissance de ces réseaux sociaux, capables de générer une mobilisation monstre en quelques heures. Puissance dont nous n'avons sans doute pas encore pleinement conscience aujourd'hui, dans la mesure où ces entreprises du numérique exercent pour l'instant essentiellement sur leur marché national. Les Baidu, Tencent, Alibaba et autres Xiaomi restent encore peu connus en dehors de leur pays d'origine. Mais que se passera-t-il quand les géants chinois de l'Internet s'éveilleront ? Leur proximité, c'est un euphémisme, avec le pouvoir politique, a de quoi inquiéter du point de vue des libertés publiques, car derrière leur puissance économique, c'est un modèle politique qui est véhiculé par ces entreprises. Alors faut-il avoir peur des GAFA chinois ? C'est le thème de notre discussion ce soir, en compagnie de trois invités. Julien Nocetti, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, responsable des recherches sur les sujets numériques internationaux. Vous avez signé l'article intitulé « La Chine, superpuissance numérique » dans la revue Ramsès du mois de septembre, un dossier consacré à la Chine, nouvelle puissance. Pour discuter avec vous, Stéphanie Balm, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure à Sciences Po, directrice de recherche au CERI, le Centre d'études des relations internationales. Vous êtes spécialiste de la Chine. Vous travaillez en ce moment sur justement la montée de la Chine comme puissance technologique. Ce sera l'objet d'un ouvrage prochainement. Je renvoie au dernier que vous avez publié. C'était aux presses de Sciences Po. Chine, les visages de la justice ordinaire. Et puis notre troisième invité, Benjamin Bayard. Bonsoir.
Bonsoir.
Cofondateur de la Quadrature du Net. La Quadrature du Net qui défend les droits et libertés des citoyens sur Internet. Vous êtes aujourd'hui coprésident de la Fédération des fournisseurs d'accès Internet associé. C'est donc qu'ils existent.
Et oui.
Alors on va commencer avec ces GAFA chinois. On sait que les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple, auxquels on ajoute généralement le M de Microsoft. Évidemment, c'est impropre pour parler de ces géants du numérique chinois qu'il faudrait appeler. Alors comment d'ailleurs, BATX, et que recouvre ce sigle ? Je me tourne d'abord vers vous, Benjamin Bayard. Vous me faites des grands yeux.
Alors je ne les connais pas tous. Je sais que le B c'est Baidu et que le T c'est Tencent.
Alibaba et Xiaomi.
Bon, sachant qu'il faudrait normalement au moins ajouter Huawei, qui est un grand fabricant de routeurs très 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 présent dans le monde entier. Pour le coup, c'est le mieux implanté dans les marchés européens.
Baidu, c'est un moteur de recherche. Alibaba, c'est une plateforme d'e-commerce. Tencent, c'est notamment un réseau social. À chaque fois, il faudrait dire notamment d'ailleurs, parce que évidemment, ce sont des groupes qui, comme leurs équivalents américains, se développent énormément. Et Xiaomi sont des smartphones. Julien Nocetti, voilà, on peut en faire d'ailleurs les équivalents
Tencent
des GAFA.
C'est d'ailleurs très très connu via WeChat, en fait, qui est extrêmement utilisé. Très très populaire en Chine. Et comme les GAFAM, en fait, c'est le homologue américain, ce qui est très particulier chez CBATX, c'est qu'en fait, ils sont diversifiés de leur propre secteur d'origine, dans leur propre niche. Aujourd'hui, Baidu, en particulier, est très très présent dans l'intelligence artificielle, dans l'IA.
Ce sont des groupes qui pèsent, qui sont importants aujourd'hui dans l'économie chinoise, Stéphanie Balm.
Ah, mais qui sont absolument cruciales et qui ont des stratégies commerciales qui sont aussi agressives qu'intelligentes. Quand vous disiez que WeChat est connu en Chine, c'est pas qu'il est connu, c'est le quotidien. Et par ailleurs, à travers ça, il y a aussi le système d'Alipay, c'est-à-dire il y a une digitalisation constante des modes de paiement en Chine qui fait qu'il est pratiquement impossible maintenant dans les grandes villes de trouver de l'argent tout simplement sur le mode matériel. Donc en fait, toutes ces compagnies sont des compagnies qui sont liées à la science, à la technologie, qui sont des entreprises, parfois des entreprises d'État, et qui sont multicartes, qui peuvent aller des jeux en ligne, si on pense à Tencent avec Fortnite, qui en ce moment fait un tabac incroyable, à Xiaomi, vous pensiez au téléphone, mais c'est aussi les trottinettes, c'est aussi un nombre incalculable en fait de produits qui sont connus tant en Chine qu'en Asie du Sud-Est que maintenant en Occident.
Vous disiez au début, Benjamin Bayard, alors vous qui êtes un spécialiste quand même du net, je ne les connais pas tous ces BATX. Ça veut dire qu'aujourd'hui ce sont des entreprises qui en dehors de Chine n'ont pas forcément, ils ont une forte pénétration. Et moi par exemple, en tant qu'internaute français, est-ce que j'ai un intérêt quelconque à choisir plutôt un réseau social chinois qu'un réseau social comme on les connaît ici, par Facebook ou Instagram?
Mais en fait, c'est comme tous les réseaux sociaux, ça dépend de comment vous êtes socialisé. Si vous êtes sinophile, que vous avez énormément d'amis en Chine, que vous avez énormément d'amis chinois vivant en Europe, avec qui vous êtes en contact, un réseau social chinois aura du sens. Si tous vos copains sont sur Facebook, c'est pas intéressant d'aller ailleurs. C'est le principe d'un réseau social, c'est ça l'effet de réseau. Et aujourd'hui, typiquement, si vous essayez de faire des recherches sur un moteur de recherche chinois pour trouver des informations en français, les résultats seront entre très mauvais et pire. Enfin, ça peut pas être bon parce que ils ont pas fait d'efforts là-dessus. Ils visent pas ce marché-là. Ils font pas encore le travail qui correspond à ça. C'est-à-dire, vous prenez un moteur de recherche comme Quant qui est français, vous aurez un résultat en français qui est nettement plus intéressant. Vous prenez un moteur de recherche comme Google qui a des équipes qui travaillent sur comment indexer convenablement tout ce qu'il faut dans les contenus francophones, vous aurez des résultats intéressants. En revanche, si vous vous intéressez énormément à la Chine et que vous parlez chinois couramment, ce que vous trouverez sur Quant ou sur Google sera plus faible.
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Julien Nocetti, que ces BATX sont essentiellement développés sur le marché chinois? C'est parce qu'il y a tellement déjà à faire dans ce pays qu'il n'y a pas forcément la nécessité, en tout cas aujourd'hui, d'aller voir ailleurs?
Parce qu'il y a d'abord eu, de la part des autorités de Pékin, une volonté de maîtriser son propre espace numérique national, je dirais, national entre guillemets. Donc ça a consisté à souverainiser en fait ce web chinois qui a été souverainisé encore une fois, enfin de façon très très forte dès la fin des années 90 ou le début des années 2000, avec une vraie volonté de l'État et du parti de contrôler en fait tout ce qui pouvait constituer un risque pour la sécurité nationale. Étant entendu que en Chine, comme dans d'autres pays, notamment en Russie, vous avez un vrai complexe optimal de la part de Pékin, qui fait que toutes ces technologies numériques, à la base, étant américaines, il y a une volonté très tôt de briser ce monopole technologique occidental.
Vous pensez qu'il y a un fort protectionnisme en Chine, Stéphanie Balm? C'est un protectionnisme qui s'exerce notamment justement sur la question de ces géants du numérique, c'est-à-dire l'idée à la fois de favoriser leur développement et d'empêcher toute forme de concurrence qui pourrait justement entraver ce développement.
La première idée est celle que mon collègue vient d'annoncer, à savoir qu'il y a une volonté de la part du pouvoir politique chinois au tout début de faire qu'Internet ne devienne pas un outil de développement politique ou un outil d'ouverture en fait, ce qui était au début hein, Internet, en contrôlant l'ensemble et en fait en s'assurant d'un contrôle non seulement de l'usage de l'Internet. Pour qu'on assure un contrôle de l'usage de l'Internet, il fallait s'assurer la possibilité d'avoir des sociétés et des outils numériques qui soient proprement chinois pour assurer ce contrôle-là. Et ensuite, on est aujourd'hui dans un temps qui est l'internationalisation potentielle, en fait, de ces outils-là.
Ça une veut volonté dire que ce sont des entreprises qui sont encore aujourd'hui directement contrôlées par le pouvoir chinois?
Qui ne peuvent pas ne pas être, y compris parce que, d'abord, vous posez la question pourquoi. Il y a une question d'opportunité et de contrainte dans le modèle d'innovation, et en particulier dans les innovations de rupture. Ce qu'il faut, c'est des opportunités. Les opportunités, c'est un marché chinois très large, une démographie chinoise très importante, et la possibilité. Et aujourd'hui, la Chine est le premier producteur mondial de données sur Internet.
J'ai vu qu'il y avait encore près de la moitié de la population qui n'avait pas encore l'accès à Internet, c'est-à-dire les potentialités qui peuvent exister déjà,
C'est quasiment 800 millions de personnes connectées.
Qui sont connectées. Alors elles sont connectées essentiellement sur leur téléphone portable avant
d'être... Pour une population de combien?
1,4 milliard, 100 millions
ça,
quelque chose.
Hein, oui, mais il y a moitié qui reste encore à conquérir.
Alors, en espérant que tous les jeunes enfants de moins de 5 ans n'aient pas accès à Internet forcément tout de suite. Mais... en termes de couverture d'accès à Internet, c'est un des pays qui a, au contraire, qui montre, et on le voit au niveau des indices de développement humain, une des couvertures les plus importantes. Donc il n'y a pas, ce qui est très intéressant dans la sociologie stratégie de l'innovation en Chine aujourd'hui. Beaucoup de distinctions selon les genres, selon les milieux, que ce soit les milieux urbains ou ruraux. C'est-à-dire qu'il y a une couverture qui est quand même très très large d'Internet aussi, parce que le développement économique chinois se fait grâce aux infrastructures. Donc là, c'est moins ce souci-là. Donc il y a une véritable volonté politique d'utiliser aussi ces outils et ces BATX pour produire des données qui sont aussi moteurs du développement économique.
Est-ce que ce contrôle politique très important, ça n'en fait pas, Benjamin Bayard, un élément de distinction absolument essentiel avec le modèle de développement des GAFA américains?
Un modèle de distinction, oui, parce que le mode de contrôle politique n'est pas le même. Mais il serait aberrant de croire qu'il n'y a pas de contrôle politique des GAFA. Je veux dire, toutes les discussions actuellement autour du rôle ou pas qu'a joué Facebook pour permettre à la Russie d'intervenir dans les campagnes électorales américaines ou britanniques, si c'est pas du contrôle politique, je sais pas bien ce que c'est. Simplement, le mode de fonctionnement n'est pas le même. Il se fait par le business et il se fait par l'argent plutôt que se faire par le Parti communiste chinois. Mais il y a bien un rôle politique et il y a bien un rôle de contrôle politique.
Sauf que c'est un contrôle qui est fait aux dépens de ces entreprises, aux dépens des GAFA et non pas avec leur accord, avec leur coopération, non?
Absolument pas. C'est fait avec leur accord. Faut pas croire que Facebook soit pas consentant. C'est son business model de vendre la vie privée des gens et de vendre le fait de pouvoir manipuler les gens. Donc c'est son business model, c'est son cœur de métier. Même chose, les GAFA qui coopèrent avec la NSA, c'est les révélations d'Edward Snowden il y a quelques années, c'est le symétrique exact des BATX qui coopèrent avec les services de renseignement chinois ou de nos traditionnels Alcatel et France Télécom qui coopèrent très volontiers avec les services de renseignement français. Donc c'est... On a le même jeu, ça prend pas la même forme parce que les mœurs politiques sont pas les mêmes, mais la volonté politique d'empêcher que Internet soit un outil des zones d'émancipation, c'est quelque chose qu'on connaît en France depuis longtemps. Ça prend pas les mêmes formes parce qu'on n'a pas les mœurs politiques de la Chine, mais la première tentative de mise en coupe réglée sur le plan législatif, c'est l'amendement Fillon en 1996. François Fillon, 1996, ministre des PTT, ça rajeunit personne. Et l'idée était bien d'empêcher n'importe qui d'ouvrir un site web sans autorisation.
Ça vous inspire quoi, Julien Nocetti, qu'on puisse mettre presque sur le même plan, disons, le contrôle des GAFA et le contrôle
exercé par les BATX. Il faut apporter quelques nuances, évidemment, mais c'est vrai que dans le cas américain, ce qui est bon, tout à fait connu, c'est qu'en fait, l'émergence, l'essor de la Silicon Valley, c'est toujours fait en bonne intelligence avec ce qu'on appelle le complexe militaire numérique. Donc, les services américains, le Pentagone, qui ont fourni aussi une masse critique de financement, qui ont permis aussi l'essor de certains services, applications, etc.
Donc la Chine ne fait que s'inspirer de l'exemple américain en la matière.
C'est inspiré en partie de l'exemple américain, avec évidemment des nuances qui tiennent encore une fois au modèle politique chinois, qui aujourd'hui ne cache pas une ambition vraiment décomplexée de leadership technologique.
Alors voilà, justement, allons sur ces ambitions de développement à l'international, même si aujourd'hui, on l'a dit, hein, c'est quand même essentiellement quelque chose de national, mais tout ça s'inscrit dans un processus qui remonte déjà à un certain nombre d'années. Stéphanie Balme, avant d'entrer en studio, vous me faisiez remarquer que 2018 et décembre 2018, ça va être le 40e anniversaire de quoi ?
40e anniversaire de ce qu'on appelle la politique de réforme et d'ouverture, ce que certains de nos auditeurs connaissent peut-être pour l'avoir appris dans leur livre d'histoire, les quatre modernisations. Donc, en gros, 78, c'est l'année zéro de la science chinoise. Ça vient après 30 ans de maoïsme et 10 ans de révolution culturelle. Et en fait, la Chine, en 76, se réveille avec quelques scientifiques qui demeurent, qui sont plutôt des scientifiques militaires. Mao avait préservé un programme qui s'appelait de bombes et un satellite. Et donc, et avec une science totalement à genoux. Science qui, au contraire, dans les années de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 40, était une science qui était florissante et qui a vu tout de suite au début des années 50 des Chinois obtenir le prix Nobel de la science, en particulier de physique, pardon, de la paix, prix Nobel de physique.
Et donc coup, en 78, la décision... Pardon, oui, allez,
voilà.
Excusez-moi.
Pardon. Donc en 78, la décision est de dire il faut que la science et la technologie servent au développement économique de la Chine. Et donc on est 40 ans plus tard. Et 40 ans plus tard, eh bien, même si le bilan est contrasté, de façon générale, la Chine a fait une longue marche et est arrivée aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est quoi ? C'est qu'il y a une vision politique, il y a des ressources humaines considérables, il y a des moyens financiers considérables. Et parmi les meilleures universités du monde, on trouve aujourd'hui aujourd'hui des universités chinoises. Les plans quinquennaux structurent aujourd'hui le développement technologique de la Chine. Et donc la Chine est en passe de devenir une grande puissance scientifique.
Et donc est-ce qu'il y a une volonté justement de se développer, Julien Nocetti, à l'international par rapport à ces géants de l'Internet chinois? Est-ce que ça, c'est planifié, disons?
Alors c'est planifié dans la mesure où ça soutient la vision du monde de Pékin. Parce qu'il faut pas oublier qu'en fait toute cette question de la technologie et du numérique est imbriquée dans plusieurs champs, plusieurs dossiers qui font que la Chine doit être leader de la gouvernance mondiale dans les prochaines décennies. Et ça, sur le plan technologique, c'est tout à fait fondamental. Et ce qui se passe notamment actuellement avec les États-Unis, cette espèce de guerre commerciale tous azimuts entre Trump et Pékin, c'est tout à fait indissociable du contexte technologique.
Dans l'article que j'évoquais au début de l'émission que vous avez signé pour la revue Ramsès, vous dites, vous écrivez notamment ceci: la Chine a fait du numérique une composante clé de son ambition de remodeler la gouvernance mondiale autour de ses propres intérêts. Alors la gouvernance mondiale, ça peut prendre différentes formes, mais ça peut prendre quelle forme s'agissant justement du numérique?
Alors du numérique, ça passe d'abord par la question de la gouvernance de l'Internet, donc de la technologie Internet, donc du réseau. Et ça, Pékin est extrêmement actif depuis déjà une bonne quinzaine d'années pour promouvoir ses propres normes de comportement. Les Chinois ne parlent pas de cybersécurité, hein, comme les Russes, ils parlent de sécurité de l'information. Ils promeuvent une vision très très étatique, en fait très étatiste du cyberespace. Ils souhaitent avant tout défendre leur propre spécificité nationale. Et ça passe aussi par une volonté de dupliquer les principaux forums de débat et de gouvernance mondiaux en Chine aujourd'hui. Depuis 2014, vous avez dans la ville de Wuhan la conférence mondiale de l'Internet où chaque mois de décembre, le président chinois et plusieurs de ses collègues non seulement font des discours mais invitent les principaux leaders de la tech mondiale. L'année dernière par exemple, il a quand même réussi à réunir Tim Cook, le PDG d'Apple, et Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. Donc, ce qui est tout à fait notable et ce qui traduit quand même une vraie volonté de la Chine de faire déplacer le centre de gravité numérique de la planète.
La dernière conférence en date d'ailleurs, elle avait pour intituler la volonté de créer un monde digital pour une confiance mutuelle et une gouvernance collective. Stéphanie Balm.
Oui, en général, on ajoute harmonieuse aussi. Alors, je voudrais dire que ici, il y a une volonté internationale déclinée très bien par ce que vous venez de dire. Il y a d'abord une volonté interne. C'est-à-dire que voilà, on peut se poser plein de questions, y compris est-ce que la Chine se tourne vers son passé et est critique par rapport à son passé. Visiblement, la réponse est non. Et donc, en fait, l'idée, c'est de regarder vers l'avenir et donc de projeter la société vers un projet d'innovation. Le mot d'innovation est un mot qu'on entend toutes les 5 minutes en Chine par absolument tout le monde, et donc on demande, on invoque en fait aux citoyens chinois le fait de devoir innover. Donc, et en particulier l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est véritablement devenue le sujet qui unit à la fois le monde politique, le monde économique, le monde des médias, étant donné qu'on peut considérer que si la Chine a produit des innovations d'usage, elle souhaite apporter l'innovation de rupture, des innovations de rupture dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a une vision politique qui est très claire, qui est articulée. C'est très facile, il suffit de lire notamment 2 programmes. Le programme qui s'appelle Internet Plus et Made in China 2025, qui porte aussi un nom en anglais directement. Quand Xi Jinping a donné ses vœux devant les citoyens chinois lors de la fête du 1er janvier, derrière lui, il y avait 2 livres qui étaient en anglais, qui étaient les livres sur l'intelligence artificielle. Donc il y a une articulation très forte qui est une vision politique pour la Chine. Et en fait, ce que vous disiez très juste, c'est moins une guerre commerciale avec les États-Unis qu'une guerre technologique. Guerre technologique que les Américains ont bien peur qu'ils vont perdre.
Et on voit à quel point justement il y a d'autres points communs qui peuvent se tisser avec les exemples qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui, en tout cas qu'on croit connaître beaucoup mieux, Benjamin Bayard, qui est celui des GAFA, c'est-à-dire cette place donnée à l'intelligence artificielle par ces géants du numérique. On sait que Google essaie de développer tout un tas de... développe même tout un tas de programmes en la matière. On voit à quel point ça devient aussi un enjeu géopolitique, en fait. Hein.
Oui et non. Alors, pour le coup...
Pourquoi oui, pourquoi non, alors.
Pourquoi oui, pourquoi non. D'un point de vue de défenseur des libertés, d'abord, j'aime pas le mot intelligence artificielle parce que c'est un écran de fumée. Il recouvre des choses très particulières et qui ont une vraie définition technique et qui sont en général mal utilisées. Remplacez donc intelligence artificielle par informatique. Et vous verrez, ça marche très bien. Ça fait des phrases qui ont du sens. Et donc, est-ce que Google fait de la recherche en matière d'informatique ? La réponse est oui. Est-ce qu'ils sont bons dans le domaine ? La réponse est oui. Est-ce que les grandes entreprises chinoises le font aussi ? C'est l'évidence même. Tous ces gens-là font de la recherche en informatique sur le traitement des données, sur comment faire du calcul, de la prédiction, des statistiques, des modélisations dont on n'était pas capable avec les ordinateurs d'il y a 40 ans. Donc oui, bien sûr qu'ils font de la recherche dans le domaine et bien sûr qu'ils sont bons. Et il y a un deuxième volet qui est à quoi sert l'informatique ? Quel est le projet derrière ? Le projet de Google, c'est de contrôler la totalité de l'humanité. Notez que là-dessus, ils pourraient s'entendre avec le gouvernement chinois. Il se trouve juste que le gouvernement chinois n'est pas actionnaire de Google. C'est ce qui fait que dans la petite guerre entre Baidu et Google il y a quelques années, Google a perdu et s'est fait éjecter du marché chinois parce que Baidu coopérait très naturellement avec les autorités chinoises, alors que Google coopérait beaucoup moins. Mais le fond de l'histoire, c'est bien ça. Pourquoi ces gens-là font-ils de l'informatique ? Et c'est là qu'intervient le. Alors je vais être un petit peu long. La question de la désubjectivation. Quand j'ai une relation commerciale avec mon boulanger, je suis sujet de la relation. Il est sujet de la relation. L'objet de notre relation commerciale, c'est le pain. Dans la relation que j'entretiens comme utilisateur avec Google, je ne suis pas sujet de la relation commerciale. Je suis l'objet. Le sujet de la relation commerciale, c'est l'annonceur, et il achète. Mon temps, il achète la capacité qu'a Google ou qu'a Facebook de me manipuler. Cette façon de désubjectiver les gens par de l'informatique, de leur enlever leur rôle de sujet pour les transformer en objet par de l'informatique et du numérique, c'est ça ce qu'on cache derrière l'écran de fumée, intelligence artificielle.
Et ça, vous dites quoi, en gros, Benjamin Bayard ? C'est-à-dire qu'on soit un des géants chinois du numérique, qu'on soit un des géants américains, le projet, au bout du compte, c'est le même ?
Le problème est sensiblement le même. L'objectif politique n'est pas le même. L'objectif politique du gouvernement chinois et de l'industriel chinois qu'il soutient n'est pas le même que le projet politique de l'administration Trump et des entreprises américaines. Mais la perte de la notion de sujet pour devenir un objet manipulé et contrôlé est sensiblement le même.
Alors j'aimerais avoir la réaction de Julien Nocetti et de Stéphanie Balme. Julien
Nocetti. Pour revenir au propos précédent de mes deux collègues, il faut évidemment insister sur la cohérence de la stratégie chinoise en matière d'IA, d'intelligence artificielle, puisque la volonté annoncée est d'être leader mondial sur ce secteur d'ici 2030, avec 148 milliards de dollars annoncés pour justement atteindre cet objectif. Par contraste, le plan français en la matière est doté de 1 milliard d'euros. Voilà. Donc ça situe aussi l'échelle des stratégies nationales en la matière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine a quand même une position très très décomplexée en la matière et qui passe, comme Stéphanie Bam l'a rappelé, au plus haut niveau. C'est-à-dire que le chef de l'État est tout à fait conscient des enjeux et impulse la stratégie directement en matière d'IA.
Mais sur la nature du projet et la nature politique, disons, du projet.
Alors, elle passe là aussi davantage sur un plan interne, à la fois pour contrôler la population. C'est vrai qu'on, je fais référence à tous ces reportages aujourd'hui qui fleurissent sur la reconnaissance faciale des citoyens chinois dans la rue, sur le développement de l'apprentissage autonome, etc. Bon, qui voilà, et qui participe aussi d'une forme de contrôle social, d'une surveillance de la société. Et d'une certaine manière, vous avez un retour orwellien qui est tout à fait phénoménal aujourd'hui en Chine par le biais de ces technologies.
Stéphanie Balme.
Je dirais plusieurs choses. D'une part, je pense que est-ce que le projet est le même ? C'est une vraie question. Ce qui est très différent, c'est le contexte d'ensemble et le fait qu'aux États-Unis existe une société civile, en Europe existe une société civile, ce qui n'est pas évidemment le cas en Chine. J'entends par société civile des France Culture, des médias, des syndicats, etc. Donc ça fait une grande
différence.
Des quadratures du net, exactement ce qu'on est en train de se dire. Deuxièmement, ce qui est complètement différent, c'est la puissance des sciences humaines et sociales aux États-Unis et en Europe. Et autant la Chine, et je le disais à l'instant, fait partie des meilleures universités mondiales en sciences dures, autant les universités chinoises en histoire, en philosophie, en sociologie, en anthropologie sont pas exactement au niveau de Harvard ou des meilleures universités européennes. Donc ça fait un objet différent. Je dirais, alors, par ailleurs, la volonté politique première de la Chine, c'est de devenir une grande puissance scientifique et technologique. C'est aussi une montée en gamme de l'économie. Et si par ailleurs, ça produit du contrôle social et que donc ça permet de capter ce marché sans qu'il y ait transformation politique, politique, pour pas parler de transition politique, évidemment, là, c'est tout bénéfique. Donc, c'est, voilà. Alors, moi, ce que je dirais, qui est un peu un élément de débat par rapport à vous, monsieur, c'est, certes, il y a une trivialisation des comportements via l'usage d'Internet, mais, et si l'objet, le sujet, un citoyen qui n'est plus ce sujet qui est devenu objet, et s'il était consentant? Parce que je veux quand même dire, c'est que dans le contexte chinois, en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas d'un côté un État parti chinois qui domine une société civile qui est totalement en contradiction ou en contestation constante. Oui, il y a des éléments, évidemment, de contestation. Et il y en a sans doute beaucoup plus que ce qu'on entend. Mais il y a aussi, de façon générale, ce qu'on voit, c'est qu'une socialisation très rapide aux nouvelles technologies. Et cette idée aussi que les nouvelles ancrer l'idée que les nouvelles technologies permettent un mieux-être économique, permettre un mieux-être social, et donc d'une certaine manière aussi une dimension d'acceptation du modèle.
Mais c'est alors, là que qu'il y a une acceptation d'un contrôle qui oui. peut être autoritaire, pour en échange avoir une forme de commandeur de confort et de tranquillité sociale.
Bah, c'est-à-dire que très 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 souvent, on est en situation de constater qu'effectivement l'échange entre l'aspect pratique, l'aspect développement économique, l'aspect sécuritaire et la liberté, eh bien la question se pose chez beaucoup de citoyen chinois, en tout cas, qui est de dire voilà, la reconnaissance faciale, par exemple, le sujet de la reconnaissance faciale est un sujet qui est beaucoup moins contesté qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors aussi parce qu'il manque tout ce contexte d'ensemble que j'ai indiqué au préalable, mais qui est une véritable question qui se pose d'ailleurs à partout, hein, qui se pose entre le voilà, qu'est-ce qu'on lâche de notre liberté au profit d'un peu plus de prospérité.
Est-ce que ça c'est un sujet d'inquiétude pour vous, Benjamin Bayor? Vous dites on a quand même des cultures qui sont suffisamment différentes pour que justement, même si c'est géant du numérique chinois,
culture politique, hein, ouais, absolument, pas des cultures en tant que telles.
Bien sûr, oui.
Alors, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Peut-on consentir à ne plus être un sujet? Je suis pas sûr. C'est une vraie question philosophique compliquée. Pour le coup, j'ai pas le niveau en philo, mais je suis pas complètement certain qu'on puisse. Cependant, il y a une vraie question qui est, y a-t-il consentement? Et le plus souvent, la réponse est oui. Mais de la même manière, à chaque fois qu'il s'est voté dans les États européens des grands systèmes antidémocratiques, il y avait un consentement populaire. Sans quoi ça ne serait pas passé. Alors la référence évidente, c'est la montée des fascismes dans les années 30. Mmh. Mais ça ne peut pas passer sans un consentement populaire. On a exactement les mêmes questions autour de Google. Google est une entrave, est une atteinte permanente à la vie privée, ne respecte pas les droits des personnes, etc., etc. Mais il y a un consentement. C'est-à-dire que si vous demandez aux gens est-ce qu'ils sont contents d'utiliser tel ou tel service, la réponse est toujours oui. La question, c'est sont-ils libres de ce consentement?
Enfin, à la fois, il y a un consentement individuel, mais il y a aussi des tentatives qui ne sont pas juste simplement pour la façade de régulation, justement, de ces entreprises de l'Internet. Face à des entreprises chinoises, ça risque peut-être d'être un petit peu plus compliqué, non?
Alors, c'est pour moi la question clé du point de vue des libertés sur faut-il avoir peur de Baidu. En fait, la seule question, c'est est-ce que nos autorités politiques feront appliquer nos règles? À l'heure actuelle, le Règlement Général pour la Protection des Données Personnelles, le RGPD, qui est rentré en vigueur au mois de mai, on ne sait pas encore à quel point il sera bien ou mal appliqué en Europe. On n'a pas encore le début de la première jurisprudence. On n'a rien. C'est en cours. Les plaintes contre Google et Facebook sont déposées depuis le lendemain matin de son entrée en application. Certaines par la Quadrature en France, d'autres par des tas d'autres associations dans toute l'Europe. On n'a pas encore de décision là-dessus. Même chose, tous les textes européens qui sont mal fichus ou qui font des trous dans ces mécanismes de protection. Par exemple, ce serait trop long à détailler, mais le Safe Harbor puis le Privacy Shield qui permettent d'exporter des données vers les États-Unis en disant les États-Unis protègent aussi bien les données personnelles que l'Europe, ce qui n'est pas vrai. Ces accords internationaux sont défendus bec et ongle par les gouvernements, par la Commission, etc. Mais si l'Europe décide d'appliquer avec une certaine rigueur les normes dont elle s'est dotée récemment sur la neutralité du net, sur le RGPD, etc., si Baidu vient jouer en Europe et respecte les mêmes règles, pour l'utilisateur final, il y aura à peu près les mêmes garanties. Simplement, je pense pas que ce soit la volonté de la Chine d'amener Baidu en Europe sur ce type de marché. Ça les intéresse beaucoup plus de piquer la part de Samsung dans la vente de téléphones portables, de piquer la part d'Apple dans la vente d'iPhone, de même qu'ils ont piqué les parts des grands fabricants de routeurs avec Huawei, etc. Je pense qu'ils ont beaucoup plus d'intérêt à respecter les normes européennes en matière technique pour les équipements électroniques qu'à essayer de venir sur le marché des services où ils ne sont pas adaptés à nos mœurs politiques et sociales.
Stéphanie Balme.
Oui, non, moi je veux dire, il y a un autre sujet aussi qui est connexe, qui est la question, en gros, on se pose la question, est-ce que l'innovation est possible dans le cadre d'un régime autoritaire? Et on se pose souvent la question en Chine, en particulier, puisqu'on parle de la Chine ici, est-ce que finalement la Chine va devenir une grande puissance technologique aussi, et compte tenu des limites qui sont posées à la liberté académique? Alors, je crois qu'il est, et le modèle américain le montre bien, ce qui indique, c'est quand même deux projets un petit peu différents aussi, c'est que la liberté académique, elle est un frein à la connaissance tout court, y compris dans le domaine des sciences dures et y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce qui m'amène à passer un message qui est que dans la coopération, dans notre coopération universitaire et scientifique avec la Chine, je pense absolument crucial de ne pas se limiter à l'IA, aux sciences dures, mais aussi de lier les humanités et les nouvelles technologies.
Julien Nocietti, sur la question de la régulation, est-ce qu'il y a, de la même manière que vous l'expliquiez tout à l'heure sur les notions de gouvernance, l'idée aussi de la Chine à travers cette conférence mondiale annuelle sur Internet, c'est-à-dire d'essayer de modifier la façon dont on gère ces questions et d'imposer son propre modèle, ou bien est-ce qu'il y a plutôt la volonté de se dire, dans notre projet d'expansion aujourd'hui, notamment en matière numérique, on va plutôt essayer de montrer patte blanche et de se glisser dans les régulations telles qu'elles sont proposées, notamment par l'Union européenne.
Tout à fait. C'est tout à fait notable qu'il y ait une vraie volonté d'imposer les normes et les standards chinois. Alors, ça va concerner à la fois l'IA, encore une fois, la 5G, les futures normes de 5G qui vont être adoptées et qui constituent déjà un vrai sujet de compétition entre Américains et Chinois, notamment. Ça va concerner les crypto-monnaies, la blockchain en particulier. Les smart cities également, donc
les smart cities,
les villes intelligentes. Donc tous ces champs qui sont aujourd'hui très très mouvants et dont les normes et les standards sont pas encore tout à fait aboutis, constituent un levier pour Pékin pour imposer ses propres choix et ses propres normes. Et ça, ça rentre tout à fait dans cette vision du monde et cette notion de gouvernance mondiale que la Chine pousse aujourd'hui dans les principales enceintes internationales. Et en fait, à Pékin, on a très bien compris qu'aujourd'hui, la puissance d'un pays se traduit par sa capacité à imposer ses propres choix technologiques et par extension ses propres normes. Et ça, c'est tout à fait notable chez les grands acteurs, que sont Huawei ou ZTE en particulier, qui doivent être, pour Pékin, les fers de lance de cette normalisation, cette volonté de normalisation chinoise.
Alors j'ai vu qu'en mai dernier, il y avait eu la création d'une fédération chinoise des sociétés de l'Internet, dont les patrons de Baidu, d'Alibaba et Tencent sont les vice-présidents, qu'un des objectifs, alors là c'est ce que j'ai pu lire dans les comptes rendus de presse, c'était notamment de nettoyer le cyberespace. Ça c'est quand même un élément fort d'inquiétude de se dire, c'est-à-dire si ces sociétés se développent et qu'elles nettoient Internet de ce qui déplaît, de ce qui va à l'encontre du projet politique chinois, là il y a quand même de quoi s'inquiéter à la puissance 10 par rapport aux inquiétudes qui sont les nôtres face aux GAFA, non?
Bien sûr, sur nettoyer Internet, bon, ça renvoie à tout ce vocabulaire hygiéniste qui de temps à autre revient, que ce soit chez Nicolas Sarkozy à l'époque ou Barack Obama qui parlait d'hygiéniser Internet, ou le dirigeant iranien aussi qui avait leur propre conception en la matière, mais tout ça passe par une volonté d'influence de la part de Pékin dans ses principales enceintes.
Mais est-ce qu'ils auraient les moyens de le faire s'ils voulaient vraiment le faire, ou est-ce que ça relève seulement du discours pour vous?
Ça va au-delà du discours, je pense, aujourd'hui. Et c'est vrai que pour prendre un seul exemple, vous avez aujourd'hui une agence onusienne qui s'appelle l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, dont le président est chinois. Qui a longtemps été vice-président, qui est aujourd'hui président, et qui est responsable de différents sujets de normalisation internationale, qui a un rôle moteur dans certains débats, notamment, enfin, de plus en plus sur la cybersécurité.
Benjamin Bayard.
Alors, il faut comprendre deux choses là-dedans. D'abord, le fait que c'est pas spécifiquement chinois, et c'est pas spécifiquement lié à l'ère Sarkozy, hein. Ce que Macron attendait de Zuckerberg en le recevant à l'Elysée, c'était précisément de nettoyer le cyberespace. Donc c'est pas spécifiquement chinois. Juste, il a pas forcément la même notion de l'hygiène que les politiques chinois.
Oui, mais, il veut pas forcément nettoyer les mêmes choses.
Mais ils ont la même volonté de nettoyer. Et surtout, il faut comprendre ce que font les grandes plateformes. Les grandes plateformes n'ont pas le monopole sur l'information émise, elles ont plutôt un monopole sur l'information reçue. Si Facebook décide de censurer un contenu, Facebook peut pas vous empêcher de le publier. Vous ouvrez votre petit site www.grainamoudre.com, vous y mettez ce que vous voulez comme contenu, Facebook peut pas vous en empêcher. En revanche, Facebook peut faire en sorte que ses abonnés ne le verront jamais. Google peut faire en sorte que ça ne ressorte.
Ce serait une erreur, ce serait dommage.
Mais ils peuvent. Google peut faire en sorte que ça ne ressorte jamais comme réponse dans une recherche. Et donc en fait, les géants monopolisent beaucoup plus facilement le destinataire que l'émetteur. Et donc quand ils veulent nettoyer, quand les BATX veulent nettoyer le cyberespace, ils veulent pas faire fermer les sites politiquement déplaisants qui fleurissent en France et en Chine, mais ils veulent faire en sorte que les Chinois ne puissent pas les voir. Pour que les communautés chinoises à Paris qui publient des choses qui pourraient donner des idées fâcheuses aux gens restés au pays ne puissent pas être visibles. Donc le but est pas, quand ils veulent nettoyer le cyberespace, de vous empêcher, vous, de voir les textes qui sont défavorables au gouvernement chinois. Leur but est d'empêcher que les citoyens chinois en Chine le voient. Et ce nettoyage-là, ils en sont tout à fait capables, de même que Facebook et Google sont tout à fait capables de nettoyer l'espace politique en France. Si Google décide de censurer un site web, il perd en France 98% de son audience, puisque Google a entre 95 et 98% de part de marché dans le moteur de recherche. C'est une capacité de nettoyer.
Vous avez parlé d'émetteurs, de destinataires. Entre les deux, il y a les tuyaux. Les tuyaux, c'est notamment Stéphanie Balm, par exemple les câbles sous-marins qui permettent justement d'amener ces messages Internet. En tout cas, est-ce qu'en termes d'infrastructure, aujourd'hui, la Chine investit pour le développement des infrastructures du numérique? Je vois que vous n'avez pas forcément la réponse. Julien Ossetti me dit que oui. Enfin, que oui, il a la réponse.
Je ne prétends pas l'avoir. Du moins, j'essaie de porter un petit élément. Non, je replacerai l'enjeu d'infrastructure dans ce fameux projet des nouvelles routes de la soie chinoises. Grand projet.
Est-ce qu'elle passe aussi par le fond des océans, quoi?
Qui passe par des câbles sous-marins, par l'implantation de data centers à travers, enfin, de Chine, à travers l'Eurasie, le Moyen-Orient et jusqu'en Europe, et aussi l'Afrique à terme, par le cloud et par l'installation de réseaux de fibre optique, donc de réseaux aussi de 5G. Et dans ce projet des routes de la soie, vous avez un volet numérique tout à fait substantiel. Je crois que c'est quelque chose comme 1000 milliards de dollars de projets annoncés en la matière et qui sont censés exporter le modèle économique et politique de Pékin. Et en matière numérique, c'est tout à fait fondamental parce que l'objectif est de contrôler à terme les infrastructures. Voilà, de Chine jusqu'à l'Europe. Infrastructure, c'est-à-dire aussi par extension les données qui sont produites, extraites et raffinées et qui iront en Chine et alimenter toute cette masse critique aussi de données qui serviront à des fins commerciales et peut-être politiques.
Bon, alors du coup, comment est-ce que vous répondriez à la question qu'on posait ce soir Stéphanie Balm? Faut-il avoir peur des GAFA chinois? Donc faut-il avoir peur des BATX? Pas pour l'instant, il faut pas être plus...
C'est le terme peur, en fait, sur lequel j'aimerais revenir, parce que est-ce que c'est le bon terme pour réfléchir de façon sereine? Je suis pas sûre. Je crois que de façon générale...
Faut-il se méfier alors, peut-être?
Faut-il les connaître? Faut-il mieux les connaître? Et faut-il mieux les connaître pour en avoir une vision, et singulièrement européenne, parce qu'on n'a pas prononcé le terme d'Europe ici, mais qui est crucial. Cet auteur à succès, Laurent Alexandre, considère qu'on est dans une colonie du numérique. Je sais, auteur à succès qui crée débat, qui fait débat, mais qui a au moins pour intérêt de poser cette question sur l'agenda, et qui considère qu'on est devenu une colonie du numérique, et qu'on est complètement, nous en Europe, totalement colonisés à la fois par les GAFA et les BATX. Donc là, le mot peur, quand on pose des sujets liés à la Chine, n'est absolument pas une bonne façon de raisonner sur ce sujet comme sur d'autres. La Chine, en fait, révèle nos faiblesses et nos forces. Et nous avons de sacrées forces. Le fait que nous puissions discuter de la qualité du type de société que l'on souhaite inventer. Le fait de se demander si la Chine n'invente pas notre futur et si on est d'accord ou pas. Enfin, cette capacité à pouvoir réfléchir au transhumanisme, à pouvoir lier sciences humaines et sociales et sciences dures, etc. Ça, c'est une véritable force. Le fait d'être un modèle démocratique qui permet de contester cette puissance des GAFA ou des BATX, ça, c'est une véritable force. Nos faiblesses, c'est peut-être un manque de vision. C'est sans doute un manque de financement aussi. C'est, on le rappelait en termes d'investissement vraiment l'écart absolument incroyable qu'il y a entre la Chine et l'Europe. Donc, en avoir peur, oui, mais est-ce fort utile? La question, c'est véritablement connaître davantage pour avoir une véritable vision. Et puis, vous parlez des routes de la soie. Les routes de la soie, c'est aussi indiquer que la Chine forme aujourd'hui ce qu'on appelle le Sud et que nous avons déserté complètement la formation des scientifiques dans cette région du monde.
Julien Ossetti, conclusion en quelques mots.
Pour répondre à la question de l'émission, je dirais qu'il faut peut-être moins craindre les 4 BATX dont il était question que les deux autres têtes dont on a aussi parlé, ou avec les ZTE qui sont eux des équipementiers principalement et qui ont une vraie volonté aussi de contrôle, notamment en Europe, en matière de routeurs et de 5G, et qui posent de vraies questions en matière de souveraineté et de surveillance. Et là, aujourd'hui, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande ont interdit ces deux acteurs à participer aux appels d'offres pour construire les réseaux de 5G. Parce que ça pose quand même de réelles questions politiques. En France, il y a beaucoup moins de débats, mais il y a une sensibilité très très forte d'autorité quant à ces enjeux.
D'ailleurs, le développement du réseau 5G, ça fera partie d'une des prochaines émissions du Grain à Moudre sur les questions, notamment sanitaires d'ailleurs. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Julien Ossetti, Stéphanie Balme et Benjamin Bayard. Discussion que vous pouvez retrouver sur notre site internet France Culture, à la page du Grain à Moudre. Puis on a aussi une page Facebook. Merci à toute l'équipe du Grain et merci à Arnaud Laporte d'être là tous les soirs pour la dispute.